Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 25 août 2025. Jackson Hole est censé être la colonie de vacances des banquiers centraux. On parle un peu d'économie en se baladant dans les champs et on fait une randonnée devant les montagnes du Wyoming. Sauf que cette année, il n'y a pas eu de rando. L'ambiance était un peu tendue. Au-delà du fait qu'aucune décision ne serait prise, les participants se devaient d'affirmer leur indépendance, surtout depuis que Trump s'en prend à la Fed environ toutes les 5 minutes. Powell a tenté de faire croire qu'il contrôle encore la situation, et vendredi, le patron de la Fed a ouvert la porte à une baisse des taux, ce que le marché voulait entendre, de quoi célébrer, mais pourtant, il n'a jamais semblé aussi fragile. Sur scène à Jackson Hole, Powell a avoué que le risque de l'emploi devenait plus préoccupant. L'économie US ralentit, le marché du travail n'est pas au mieux, mais l'inflation persiste. Et pour couronner le tout, les tarifs douaniers de Trump se voient déjà dans les prix. Powell a bien tenté de minimiser en parlant d'un effet court, mais pour l'instant, on ne va pas se leurrer. L'effet inflationniste des droits de douane est bien présent et ça ne va pas aider à ramener le CPI ou le PCE en direction des 2% tant espérés par la Fed. Résultat, il doit jongler entre une inflation qui refuse de rentrer au panier et un marché du travail qui commence à donner des signes de fatigue. Mais si on se place simplement du côté des marchés, ils ont eu ce qu'ils voulaient, tout simplement. Ils voulaient avoir une confirmation comme quoi la Fed allait bien baisser les taux en septembre. Les plus pinailleurs admettront qu'il n'a pas donné la moindre confirmation officielle. Mais Powell a laissé la porte grande ouverte et ça a largement suffi pour déclencher un rallye de fin de semaine qui a effacé tous les doutes que nous avions mis sur la table depuis lundi dernier. Encore une fois, les marchés ont su trouver l'argumentaire pour se motiver au milieu du discours de Powell. Il faut dire que nous sommes experts en la matière puisque cela fait bientôt près de 2 ans que nous montons en nous accrochant au fait que les taux ne baisseront un jour, mais plus tard, un autre jour, une autre semaine, un autre FOMC meeting. Cette fois, nous sommes donc concentrés sur le mois qui arrive. On ne va pas se précipiter, tant notre vision est devenue court-termiste. Même Powell l'a dit dans son discours, il veut bien baisser les taux, mais il doit encore tenir compte des chiffres économiques qui vont sortir avant le 17 septembre. Et il y aura de quoi faire, puisque dès ce vendredi, nous aurons les chiffres du PCE, histoire de remettre la thématique de l'inflation sur la table. Et dès la semaine prochaine, on va parler de l'emploi. Sans compter le 11 septembre, les chiffres du CPI seront également de sortie. Pour le moment, les chiffres économiques à venir ne sont pas une préoccupation immédiate, puisque la seule chose qui compte, c'est l'espoir de voir une baisse des taux en septembre. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, si l'on prend 30 cm de recul par rapport à ce qui se passe, il y a personne qui a fait 15 ans d'études uniquement sur l'inflation pour se rendre compte que l'équation n'est pas simple et que la décision des banquiers centraux américains n'est pas simple non plus. Ce week-end, le même Bloomberg commençait à se dire que la baisse du mois de septembre ne va pas non plus être facile à justifier. En effet, les sociétés commencent à faire passer le surcoût des tarifs directement aux consommateurs et ça ne va pas être facile de trouver logique de baisser les taux alors que l'inflation repart comme une balle. Les prochaines données économiques seront donc visiblement décisives, mais en attendant, au-delà de l'état de l'économie dans son ensemble, les marchés financiers, le monde de l'investissement, eux, ils avaient besoin de trouver des raisons pour recommencer à monter. Et les mots de Powell ont visiblement suffi à tout le monde pour venir racheter des Magnificent Seven, puisque dès que l'on parle bull market et record historique, c'est la seule chose qui nous passe par la tête. Et puis, tirer des plans sur la comète pour parler de l'avenir des taux et chercher à savoir si le S&P 500 va atteindre les 7000 avant la fin de l'année, c'est bien sympathique. Mais le symposium de Jackson Hole a aussi permis aux banquiers centraux de parler de leur indépendance. Alors oui, ça n'était pas dans le discours officiel de Powell, mais Lagarde l'a tout de même mentionné au passage, mentionné le fait que l'indépendance de toute banque centrale est d'une importance cruciale. Nul besoin de suivre attentivement les comptes de Trump sur les réseaux sociaux pour comprendre que la remarque de la patronne de la BCE pointe directement aux agissements de Trump contre la Fed. Trump qui ne laisse aucun répit à Powell puisqu'il veut virer Lisa Cook, gouverneur de la Fed, sur fond d'accusations de fraude. D'ailleurs, un activiste pro-Trump a même dû être sorti manu militari du lodge où se déroulait le symposium après avoir tenté de l'agresser verbalement. Powell, lui, tente de sauver la face tout en se prenant des boulets de canon politique en pleine figure en permanence. Et ça ne va pas s'arrêter là, même si Powell baisse effectivement les taux le 17 septembre. Je peux vous jurer que Trump va hurler à la mort parce que 25 basis points, ça sera pas assez. Bref, on connaît l'histoire. Il n'y a pas eu non plus de grosses révolutions qui ont été annoncées la semaine dernière. La seule chose que l'on retiendra, c'est que Powell s'est montré tendanciellement dovish, mais sans garantie. Et ça a totalement suffi au marché pour péter les plombs à la hausse, encore une fois. Pourtant, si l'on gratte un peu dans les chiffres économiques et si l'on accepte de leur donner un peu de crédit, la semaine dernière, les chiffres du PMI nous ont quand même montré que ça allait plutôt pas mal au niveau économique. Et lorsque l'on observe les chiffres des retailers, c'est pas la folie, mais le consommateur dégaine toujours sa carte de crédit. Alors, imaginez un scénario qui nous donnerait un PIB US moins moche que celui du premier semestre, un chiffre qui sortira ce jeudi, et imaginez un PCE qui sortira à 3% ce vendredi, sans oublier la confiance du consommateur qui sortira demain, qui consoliderait sans empirer. Comment est-ce que la Fed pourrait justifier une baisse des taux alors que l'inflation repart et que l'économie semble en forme? Le juge de paix pourrait bien être les chiffres de l'emploi qui sortiront la semaine prochaine. En attendant, les bourses restent complaisantes et le buy the dip reste la stratégie la plus pratiquée en ce moment. En conclusion, Powell a ouvert une porte vendredi dernier, mais comme on ne sait pas s'il joue le rôle du pompier ou du pyromane, on va encore se poser des questions pendant 3 semaines et je pense qu'il y aura encore des surprises et de nouvelles interprétations à se mettre sous la dent. En résumé, Jackson Hole, c'est derrière nous. Actuellement, on donne 85% de chance, plus ou moins, de voir une baisse des taux en septembre, et ça suffit au marché pour atteindre des records. Et ça n'est pas encore fait sur le Nasdaq, puisque certains Magnificent Seven sont encore en convalescence. Mais en même temps, cette semaine, c'est la semaine du trimestre, puisque Nvidia va publier ses chiffres trimestriels mercredi soir. Alors autant vous dire que taux d'intérêt ou pas, meeting du 17 septembre ou pas, et licenciement de Lisa Cook pour la remplacer par un cinglé qui a appris l'économie dans The Apprentice, si Nvidia nous fait un truc, tout peut arriver. Entre le poids que ça représente dans les indices et la hype qui gravite autour, mercredi soir sera clairement le moment le plus intéressant de la semaine. On va donc se garder Nvidia dans un coin pour plus tard dans la semaine, mais demain matin, à 6h du matin, je publierai une vidéo sur tout ce que vous devez attendre pour les chiffres de Nvidia de mercredi soir. La vidéo sera dispo sur investir.ch et vous pourrez également la retrouver sur la chaîne YouTube Swissquote en français. On en reparle donc demain à 6h, mais mis à part ça, la semaine sera longue et tortueuse et les valses des chiffres économiques ne font que commencer. Et entre demain et la confiance du consommateur jusqu'au 11 septembre avec le CPI, en passant par le PCE, les NFP et les JOLTS, il y aura de quoi écrire une encyclopédie sur le sujet, mais pour l'instant, il ne faut retenir qu'une seule chose, le marché est résolument bullish et ne cherche que la bonne nouvelle. Ce lundi matin, les bourses asiatiques ont le sourire, et pour une fois, c'était pas à cause d'un miracle économique local, mais bien grâce à Jérôme Powell, encore lui. Comme vendredi, le patron de la Fed a fait ce qu'il fait de mieux, parler assez vaguement pour qu'on y entende ce qu'on veut. Le S&P est au plus haut et on ne parle que de baisse des taux à venir, ça vous l'aurez compris. Alors évidemment quand Wall Street saute de joie, l'Asie suit le mouvement, mais cette fois l'histoire a pris encore une tournure particulière puisque la Chine et Hong Kong ont un peu volé la vedette aux Américains. Le CSI 300 est en train de s'approcher de niveaux qu'on n'avait plus vus depuis 2022. Le Hang Seng est au plus haut depuis 4 ans, tout ça parce que les investisseurs ont trouvé un nouveau jouet ou un nouveau sujet, devrais-je dire, les puces chinoises. Pékin martèle son discours sur l'indépendance technologique et les développeurs d'IA locaux jurent que leur modèle tourne beaucoup mieux sur des semi-conducteurs made in China et du coup tout le monde se rue dessus. SMIC, le mastodonte local, s'envole de 6%, Huawei tutoie les plus hauts de 4 ans et Cambricon, spécialiste des puces IA, explose littéralement un record historique. Ici, la consigne est claire. Consommer chinois. Autour, les places asiatiques suivent le mouvement, mais sans éclat, le Japon grappille quelques points. La Corée grimpe d'un bon 1%, Singapour et l'Australie vivotent, et l'Inde fait bande à part. Ses futurs reculs plombés par la perspective des 50% de tarifs américains qui tombent cette semaine. En Asie, l'humeur du jour, c'est un mélange de rêve américain, merci Powell et ses baisses de taux à venir, peut-être, et de fierté technologique chinoise. Et tant pis si derrière l'inflation rôde, Trump menace, et que le décor ressemble plus à une poudrière qu'à un long fleuve tranquille. Le pétrole est à 63,77, l'or à 3412, le bitcoin est à 113 000 et le rendement du 10 ans américain est à 4,27. On notera encore que vendredi, Trump a frappé fort, l'État américain détient désormais 10% d'Intel, le dernier bastion des semi-conducteurs made in USA, coût officiel 8,9 milliards de dollars payé avec des subventions du CHIPS Act et d'autres programmes déjà prévus. En clair, pas de cadeau, mais une prise de participation directe. Intel assure que le gouvernement n'aura pas de siège ni de pouvoir de gestion, mais le symbole est énorme. Washington ne se contente plus de subventionner, il devient propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'Intel reste la seule alternative à Taiwan Semiconductor. Problème, ses usines phares dans l'Ohio ne verront pas le jour avant 2030. Et technologiquement, le retard reste criant. SoftBank a mis 2 milliards de plus, preuve qu'il y a encore des gens qui y croient. Mais la réalité est plus simple. Trump transforme les puces en enjeux géopolitiques. Reste à voir si cet investissement sauvera Intel ou si l'Amérique vient juste d'acheter à prix fort un rêve encore lointain. Mais une chose est sûre, ça pourrait ne pas s'arrêter à Intel puisque Micron est toujours sur les rangs. Autrement, on parle deal transcontinental ce matin. Selon le Wall Street Journal, Keurig Dr Pepper serait sur le point de signer un méga deal de 18 milliards de dollars pour avaler le néerlandais J.D. Peet's, le groupe derrière l'or ou Tassimo ou encore Doux Egbert. Mais attention, l'idée ne serait pas de mélanger soda et cappuccino pour l'éternité. Une fois le mariage consommé, les deux mastodontes envisageraient de séparer les activités café et boisson. Bref, un mariage blanc à Las Vegas, suivi d'un divorce arrangé. En chiffres, J.D. Peet's pèse environ 15 milliards de dollars en bourse, Keurig Dr Pepper autour de 50 milliards. Le café européen se défend plutôt bien, résultat opérationnel de 709 millions d'euros au premier semestre, au-dessus des attentes malgré la flambée des prix du café. Et côté soda, KDP continue de muscler son portefeuille. L'an dernier, ils se sont payés 60% de Ghost Energy pour 990 millions de dollars, avec une option pour ramasser le reste d'ici 2028. Objectif, avoir aussi bien ton expresso du matin que ta boisson énergisante de l'après-midi tout en un. Côté chiffres du jour, nous aurons les chiffres de l'emploi en Suisse, les business expectations et l'IFO en Allemagne, et puis nous aurons les permis de construire et les new home sales aux USA. Pour l'instant, les futurs sont légèrement en baisse et tout le monde retient son souffle pour la semaine, une semaine qui pourrait être spectaculaire et annoncer peut-être le retour de la volatilité. On notera sans spoiler la vidéo de demain que les traders options s'attendent quand même à une variation de 6 à 7% sur les publications des chiffres de Nvidia et une variation de 6 à 7% sur un truc qui représente bientôt 10% du S&P 500, ça pourrait être sport. Je dis bien, ça pourrait. En résumé, Powell a ouvert une porte, les marchés se sont engouffrés dedans et nous voilà repartis à courir derrière l'espoir d'une baisse des taux comme des gamins après un camion de glace. Mais derrière les soupirs de soulagement, l'équation reste explosive. L'inflation qui résiste, l'emploi qui interroge, Trump qui souffle sur les braises et qui remue dans tous les sens. Septembre sera décisif, enfin pourrait être décisif, reste à voir la décision. Et d'ici là, on va continuer à s'inventer des raisons d'être bullish. La vraie question est simple, est-ce que Powell est pompier ou pyromane ? Belle journée à tous, bon début de semaine, et on se voit demain à 6h du matin pour faire le point sur Nvidia.